Nous sommes Daniel et Philibert, cofondateurs des Business of Bouffe, studio des stratégies et développement.
Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et adore cuisiner.
Philibert est savoyard et un ambassadeur de son terroir. Nos parcours corporate et start-up ont aiguisé notre sens business, sans jamais perdre de vue notre passion pour la bouffe.
Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du secteur food. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe.
Nous parlons bouffe, mais avec un angle business.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors, je suis comme d'habitude accompagné de mon associé Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Et aujourd'hui, nous allons parler communication, RP, influence dans la bouffe. Notre invité s'occupe notamment de la communication des plus grands chefs français. Éric Fréchon, Emmanuel Renaud, Christophe Michalak, Stéphanie Lekelec. Elle a créé et dirige l'agence Melchior. Nous sommes avec Clarisse Ferrer-Fréchon. Bonjour Clarisse.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Clarisse.
Alors pour commencer, je te laisse te présenter rapidement.
Oui, bien sûr. Alors je suis Clarisse Ferrer-Fréchon, j'ai 33 ans.
Ouais.
Je dirige l'agence Melchior que j'ai fondée il y a un peu plus de 10 ans. Je suis originaire du Sud-Ouest. Ça fait 13 ans que je vis à Paris. Voilà, je suis mariée, j'ai un enfant qui a 5 ans.
T'as pas trop d'accent d'ailleurs, je note, pour quelqu'un du Sud-Ouest.
Je l'ai perdu
parce que
au départ, tout le monde se moquait de moi.
Ah, c'est vrai?
Tu es monté pourquoi tu es monté à Paris pour travailler
ou... Pour faire mon stage au Bristol.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Ça fait la transition avec notre question rituelle, pourquoi la bouffe?
Voilà.
Donc là, on a un élément de réponse si tu parles de Bristol. Comment t'es arrivé dans la bouffe et pourquoi la bouffe alors?
Alors moi, j'ai toujours été passionnée par deux grands univers, la gastronomie et l'hôtellerie.
Ouais.
Mon papa était cuisinier. Il a changé de métier depuis et il nous a toujours éduqué dans une très bonne alimentation. La cuisine était vraiment un élément fondamental chez nous, comme souvent les gens dans la gastronomie aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Pour moi, très vite, la cuisine, ça a été l'amour, le partage, la convivialité.
Tu cuisines toi-même ?
Oui, je cuisine. Je très modestement, mais je cuisine.
C'est bien.
Et jusqu'à ce que j'arrive à Paris, j'avais vraiment aucune idée de ce qu'était la haute gastronomie. J'étais jamais allée dans un restaurant étoilé, mais en tout cas, j'avais déjà une vraie appétence pour cet univers que j'aimais beaucoup. Et par ailleurs, j'aimais l'hôtellerie depuis que je suis toute petite, parce que mon papa aussi a travaillé dans l'hôtellerie quand il était cuisinier. Et je trouvais qu'en fait, ce qui me passionne dans l'hôtellerie, loin de luxe, c'est pas le strass et les paillettes hein, de tout ce que cet univers peut générer, mais c'est plutôt l'histoire dans l'histoire avec un grand H.
Ouais.
Souvent, les palaces, les grands hôtels, ce sont des légendes. Ils ont vécu des moments charnières de l'histoire. Et j'ai trouvé toujours très intéressant. Je me suis beaucoup intéressée à ça, donc j'ai toujours beaucoup aimé ces deux univers. Quand il a fallu que je choisisse, c'est qu'est-ce que je voulais faire dans la vie.
Tu as fait quoi comme études? Tu as fait sciences politiques, c'est
ouais,
ça?
Oui, j'ai fait Sciences Po. J'avais eu l'idée de m'orienter vers une école hôtelière.
Ouais.
Je travaillais très bien à l'école. À cette époque-là, les professeurs, quand on travaillait très bien à l'école, ils nous disaient de ne pas faire d'école hôtelière.
Ouais.
Heureusement que ça a bien changé depuis.
Ouais, c'est pas de l'amour.
Du coup, j'ai fait une prépa Hippocagne.
D'accord.
Lettres classiques. Et ensuite, je suis rentrée à Sciences Po Toulouse en 2005. Et ensuite, à Sciences Po, sur 5 ans, c'est un cursus sur 5 ans. En troisième année, vous avez une année de césure.
Mmh.
Et on vous lâche dans la nature et vous faites ce que vous voulez.
D'accord.
Vraiment ce que vous voulez, il n'y a pas de...
J'avais deux options. Soit je faisais une année d'Erasmus, quelque part dans le monde, ou je travaillais. Je faisais un stage quelque part.
Ouais.
Moi, j'ai toujours été très scolaire. J'en avais marre de travailler à l'école, en tout cas sur les bancs de l'école. Et du coup, j'ai postulé dans tous les palaces parisiens, dans tous les hôtels, parce que justement, j'avais gardé cette appétence pour ces deux univers qui me passionnaient toujours.
Ouais.
Ouais. Et j'ai passé un entretien à l'hôtel Bristol.
Mmh.
Avec la directrice de la communication de l'époque.
Ça, c'est 2007.
2007, ouais, absolument. Qui m'a donc intégrée dans son service communication et j'ai fait un stage de presque un an. Voilà, je trouvais que la com, c'était un bon univers parce que c'était pas trop éloigné non plus de ce que je faisais. Moi, j'ai fait un master en affaires internationales et stratégie d'entreprise.
Ouais.
J'ai jamais étudié la com.
Mmh.
Et je trouvais que voilà, c'était un bon pont entre...
Il y avait un lien. Ouais,
Il y avait un lien, voilà. J'ai passé un an en stage au Bristol. Ça a été, je me suis découverte, hein, ça a été une vraie passion. J'étais comme un poisson dans l'eau. C'est là où je me suis dit, ok, je suis à la bonne place.
Tu avais quoi comme responsabilité à l'époque, en fait?
J'ai eu de la chance parce que je suis arrivée à une époque où le service communication était en pleine restructuration.
Mmh.
Il y avait une directrice de la communication qui s'appelle Véronique Surel. qui avait deux personnes avec elle, deux chargées de com, qui sont parties l'une et l'autre simultanément. Et du coup, on s'est retrouvées toutes les deux. Voilà. Et elle a compris que j'adorais manger et j'avais une un véritable intérêt pour ça. Du coup, elle m'a dit, écoute, on va se répartir un peu les rôles. Toi, tu vas gérer le F&B sous ma supervision. Et moi, je vais rester concentrée sur la partie hôtellerie. Et ça m'a ouvert des opportunités incroyables. Et elle m'a très vite confié des responsabilités. Et je trouve ça génial parce que j'étais jeune. Elle a pris ce pari. Et c'était une expérience formidable.
Et tu as pris les goûts pour la communication dans l'hôtellerie, en fait.
Ouais, complètement. J'étais vraiment épanouie. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai passé une année magnifique, extraordinaire. Et c'est là où je me suis dit vraiment, OK, voilà, right people at the right place.
Ouais. Mais là, t'as pas fini tes études, donc tu retournes en cours.
Voilà. Donc, à la fin de mon année de stage, j'avais rencontré l'homme de ma vie.
Ah, d'accord.
Voilà. C'est Eric Fréchon qui est le chef du Bristol.
Qui était le chef du Bristol à l'époque.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait. Donc, c'était compliqué pour moi de rester dans l'entreprise. En plus, je voulais absolument être diplômée. Je m'étais battue pour entrer à Sciences Po et je voulais en être diplômée.
Donc, il te fallait encore rester
deux
un
ans.
An. Deux ans.
Ce qui est très, très long quand on a touché au monde du travail et qu'on doit revenir sur les bancs de l'école. C'est extrêmement long, deux ans.
Donc, là, tu retournes à Toulouse.
Donc, je retourne à Toulouse. Je fais des allers-retours. Les premiers mois sont très, très compliqués. Je suis complètement presque déprimée.
Tu trouves une spécialisation dans la communication ou tu dois revenir sur les filières classiques de Sciences Po?
Il n'y a pas de spécialisation communication à Sciences Po. Donc, du coup, j'ai fait un master stratégie d'entreprise et affaires internationales.
Non, qui n'est pas en lien direct avec ta passion que tu as découvert pour la com dans la bouffe.
Ouais. Ouais, pas du tout. Et là, j'ai une chance inestimable. J'ai quelqu'un que je connais qui me dit, écoute, je vais lancer un restaurant. Je cherche une attachée de presse. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander?
À Toulouse ou à Paris?
À Paris. Et je lui dis, bah écoute, moi.
C'est une bonne réponse en général.
voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Moi, ça me permettait en fait d'avoir un peu d'argent de poche.
Bien sûr.
Pour finir mes études.
Donc tu fais ça en parallèle de la fin de tes études, d'accord. Ouais.
Ça me permettait de gagner un peu d'argent, de pouvoir financer mes deux dernières années, remettre un pied dans un univers que j'aimais. Ouais. Voilà.
Tu avais un réseau déjà à l'époque de l'année
C'est très bien quand on travaille dans un palace, c'est que le réseau se fait très rapidement. Parce qu'en fait, les gens viennent à nous. On a un bon produit, donc on se fait très rapidement un réseau. Et moi, ce réseau, en plus, j'avais pas forcément envie de le perdre. Donc cette opportunité a été formidable. On s'est tapé dans la main, on est partis ensemble, et du coup, j'ai monté une petite société pour facturer des prestations.
Qui est Melchior aujourd'hui, en fait?
Alors, c'est la société, c'était au départ, c'était une SARL et ça s'appelait Clarisse Ferrer Communication. J'ai monté ça vraiment à l'arrache. J'avais aucune ambition sur cette boîte, si ce n'est de gagner un peu d'argent jusqu'à la fin de mes études. voilà. Et de fil en aiguille, Clarisse Ferrer Communication est devenue Melchior et finalement, je n'ai jamais fermé la boîte.
D'accord. Et donc le premier client, tu l'as géré en parallèle de tes cours et...
Les deux dernières années de mes études, ça a été compliqué. Du coup, j'ai beaucoup bossé parce que je devais assurer à Sciences Po et je devais aussi travailler pour ce client-là qui après, j'en ai rentré deux, trois, quatre.
Comment ça s'est fait? Par bouche-oreille, j'imagine, du coup.
Par bouche-oreille. Ouais. Moi, ça fait... l'agence, elle a eu 10 ans en juillet dernier. Je n'ai jamais démarché personne. Je ne sais pas ce que c'est la prospection.
C'est une question qu'on
allait poser. On allait y venir, la réponse.
J'ai la chance de pouvoir fonctionner par bouche à oreille.
D'accord. Tu peux nous parler de tes premiers clients? Ils existent toujours?
Oui, bien sûr. C'était le Renoma Café Galerie. Ouais. Avenue Georges V,
d'accord.
Qui n'est pas le client le plus facile. Quand on arrive à se faire les dents là-dessus, c'est... après, on est solide. Et ensuite, ça a été le Mini Palais.
Et donc là, c'était une création à l'époque, c'est ça?
C'était une reprise.
C'était une reprise.
C'était Olivier Moret,
d'accord.
Qui est le président du groupe Ludéric, qui m'avait confié la reprise du Renoma Café Galerie, dont il avait récupéré la concession. Voilà.
Et donc à ce moment-là, toi, ta mission, c'est vraiment de les aider à communiquer sur le lancement?
Absolument, de faire les RP.
Ça serait intéressant, pardon, je t'écoupe, mais c'est une question qu'on nous a posée quand on a appris qu'on allait enregistrer avec toi, c'est qu'on se pose la question, quelle est la journée type, ou quel est les métiers types d'un RP, en fait, d'un attaché de presse, ou quelqu'un qui accompagne un restaurateur?
Alors déjà, moi, je considère que Melchior n'est pas un bureau de presse. Ça, c'est très important pour moi. Et moi, je me considère pas attaché de presse non plus. J'ai toujours dit que Melchior est une agence de communication. Une agence de communication, pourquoi? Parce que quand vous faites des RP, les RP, c'est le dernier maillon de la chaîne. Si tout le reste en amont a été mal construit ou mal positionné, etc.
Ça sert à rien.
On a beau avoir le meilleur réseau du monde et être la meilleure RP du monde, on n'arrivera pas à le vendre.
Si le produit n'est pas bon, c'est pas la com qui va se...
Exactement. Donc nous, on fait en sorte d'accompagner nos clients sur la démarche de A à Z. Donc au sein de l'agence, on a tous les métiers.
D'accord.
J'ai évidemment des attachés de presse. On a des social media managers, des community managers, un rédacteur, un studio de DA. Et après on a des fonctions support, mais en tout cas c'est on est capable de... on fait beaucoup de conseils pour nos clients. On fait toutes les stratégies de nos clients.
D'accord.
Ce qui fait que quand on a besoin de défendre un projet,
vous connaissez par cœur.
C'est nous qui l'avons construit déjà et on a accompagné le client dans la démarche.
Quand tu dis stratégie, c'est stratégie de communication.
Stratégie
alors,
de communication.
Qui peut être beaucoup plus global. C'est pas uniquement la presse, les RP. C'est voilà,
complètement. C'est global.
D'accord.
C'est global. C'est comment on positionne un produit sur le marché. Comment après on le propose aux clients, aux médias. Qu'est-ce qu'on en dit. Et après, nous, on le décline, on le lance en offline et online. Donc, réseaux sociaux, influence, réputation et médias.
Et ça, c'est Melchior maintenant, mais au début, tu faisais déjà, t'accompagnais tes premiers clients ou ton premier client avec un spectre aussi large ou des...
Au départ, forcément, je pouvais pas me payer un rédacteur, un DA, etc. Mais j'ai toujours eu cette vision globale. Je pense que ça vient de mes études. D'avoir vraiment appris à réfléchir à 360. Et je me suis toujours dit que la clé, elle était là.
Ouais, c'est vrai que donc t'as pas du tout une formation d'attaché de presse. On a bien compris qu'aujourd'hui, Melchior, c'était pas uniquement l'attaché de presse, c'est plus large que ça, d'accord.
Voilà. Et après, pour répondre à ta question, sur, y a pas de journée type. De toute façon, on fait un métier où on est totalement, toujours connecté, et on a forcément des cadres de travail, mais il peut se passer n'importe quoi. Ça nous arrive de gérer souvent des coms de crise, de gérer des lancements, et moi je passe très facilement, voilà, d'un sujet avec un chef, un restaurateur, une marque, un hôtel, sur un sujet de médias, de social media. Donc la journée type n'existe pas.
Donc c'est très excitant finalement de bosser chez Melchior, en fait. On touche à plein de choses et on travaille avec des clients assez prestigieux aussi.
Ouais. Ouais, enfin, c'est très excitant de bosser chez Melchior, ça c'est sûr. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et je suis ultra passionnée. Vraiment. Tous les matins, je me lève et j'ai une super pêche, quoi. J'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionnée. Je pense que c'est la clé de tout, d'être passionnée par ce qu'on fait.
Je fais juste une petite parenthèse. Tu parlais de gestion de crise tout à l'heure. T'as un exemple de gestion de crise dans ton métier? C'est quel type de crise et comment tu la gères, justement?
Alors, ça nous arrive d'avoir des clients qui sont confrontés à des problèmes, typiquement une grève.
Ouais.
Ça arrive d'avoir des préavis de grève. Ça arrive d'avoir des clients qui sont attaqués sur un sujet parce que il y a un employé qui leur pose problème, etc. Dans ces cas-là, on doit vraiment être à même de réagir et de les accompagner. Ça, c'est plutôt la spécialité de mon associé Valérie Milgen.
D'accord.
Qui est spécialisée en com corp, média show et com de crise, et qui est vraiment très pertinente sur ces sujets-là et accompagner nos clients sur des problématiques art de vivre. C'est très bien. Aujourd'hui, ça n'est qu'un pendant de notre activité. Un client, il a besoin d'être accompagné au global.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, quand on est une marque, quand on est un chef, quand on est un hôtel, on a aussi besoin d'avoir des prises de parole sur des problématiques sociétales, sur les sujets environnementaux, sur les sujets RH, sur les sujets... tous les sujets qui peuvent animer le secteur et tout ça, aujourd'hui on doit être en mesure de les accompagner sur ces sujets-là. C'est très important.
Oui, c'est-à-dire que le spectre de communication, il sort de la gastronomie pure. On n'est pas là que pour parler du style culinaire du chef, évidemment,
non,
on parle de ses engagements.
Tout.
Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est complètement dans l'air du temps. On voit beaucoup de chefs qui aujourd'hui prennent la parole beaucoup sur ces sujets-là. C'est peut-être une bonne chose.
Parce que ce sont des sujets qui intéressent la société, donc il faut qu'ils se positionnent par rapport à ça. C'est pas qu'il faut, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont envie aussi de se positionner par rapport à tout ça.
Complètement.
Et dans ces sujets-là, ça amène peut-être un peu plus de réactivité, rebondir sur des actualités, réagir. On peut se faire aussi attaquer parce que parfois quand on affiche des valeurs et qu'on a sur les réseaux sociaux quelqu'un qui nous attaque sur la véracité ou la vérité de ces sujets-là, c'est là où on peut avoir de la gestion de crise, c'est ça?
Ouais, complètement.
Donc c'est une évolution de ton métier parce que j'imagine peut-être quand tu l'as lancé dans les années, donc c'est 2009 au début, c'était peut-être pas encore à ce niveau-là.
Déjà, on vous confie des coms de crise quand on sait que vous êtes solide. Moi, au départ, on me confie pas de coms de crise. J'avais 21 ans. Déjà, c'était très bien quand je lançais un restaurant. Et après, petit à petit, l'agence a évolué et on a commencé à nous confier des sujets, de plus en plus gros, avec de plus en plus d'enjeux. Et aussi d'ouvrir le spectre des prises de parole. Encore une fois, au départ, quand on lance un restaurant, moi j'ai commencé en lançant des restaurants, quand on lance un restaurant, l'objectif c'est que le restaurant soit rempli, Et c'est que on est des bons articles dans les bons médias affinitaires avec les clients qu'on a envie d'avoir.
Bien sûr.
Ça c'est vraiment le step 1 de notre métier.
Après, ça, c'est la base. Ouais.
Voilà, exactement. Après, aujourd'hui, il faut arriver et c'est ce qu'on fait, à travailler beaucoup plus en profondeur sur d'autres types de sujets et dans d'autres types de médias aussi. Il y a 10 ans, je ne targetais pas du tout sur mes clients du Figaro Echo, des challenges, entreprendre ce type de médias.
Avant, tu ciblais la presque lifestyle et gastronomie pure, et aujourd'hui tu vas sur d'autres thématiques économiques, sociales.
Nous on travaille sur tous les médias, télévision, radio, presse écrite, web et influence, sachant que je considère que les influenceurs sociaux sont un média. Nous sommes tous des médias de toute façon.
Bien sûr, aujourd'hui c'est clair.
Donc on tape sur tous les médias, et ensuite sur les en presse écrite, on va vraiment chercher la presse art de vivre et la presse corp. Business.
Oui, mais ça a du sens. Finalement, en fait, c'est moi, j'ai bossé dans les médias avant, et on disait, ben, c'est qui tes concurrents? Et je disais, ben, c'est tous les médias. Parce qu'en fait, on est en concurrence pour avoir l'attention des gens. Et toi, si j'ai lu un article sur un de tes clients, sur une presse à lifestyle, une presse corp économique, c'est pareil. Finalement, j'ai obtenu l'information. Ça touche la cible, et c'est ça que tu cherches, finalement.
Complètement. Je vais vous donner un exemple. Quand on lance une marque, nous, on travaille toujours sur deux grands segments de prise de parole. Les prises de parole art de vivre, où on estime que les produits de la marque doivent paraître en presse, parce que forcément, ça crée de la conversion commerciale, et c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont commander, acheter le produit.
Bien sûr.
Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle, nous, des parutions produits, dans les pages sélection cadeau, sélection shopping, etc. Voilà.
Au grand moment, fin d'année, pour...
Voilà, grand moment de l'attaché de presse des fêtes de Noël.
On voit toute l'excitation de la fête à ce moment-là.
Voilà. Et ensuite, mais je dis à mes clients, si on ne se cantonne qu'à ça, on ne donne pas de corps à la marque.
On ne
donne pas de profondeur.
En général, c'est des articles très courts, c'est une photo, 4 lignes en dessous, et on dit rien, et on n'engage personne derrière.
Exactement,
avec ces contenus-là.
Exactement. Et aujourd'hui, les consommateurs, on est tous en recherche de sens.
Ouais.
On achète un produit, on achète une marque, et on achète une marque qui correspond à nos valeurs, et qui doit avoir, qui est fidèle à ce qu'on a envie de véhiculer. C'est pour ça que on a vraiment besoin d'avoir ces communications corporate, où là, on va aller chercher des sujets de fond sur l'histoire de la marque, les valeurs de la marque, la philosophie du dirigeant, les ambitions, etc. Et c'est ce qui permet, et ces deux communications se répondent et sont très importantes. On ne peut pas marcher que sur un pied.
Oui, ça, c'est ça qui construit des liens avec les consommateurs, avec la cible, en fait.
Absolument. Et plus que tout, parce que cette recherche de sens, aujourd'hui, elle est fondamentale. Et nous, on le voit vraiment dans la communication. Acheter pour acheter, ça n'existe plus. C'est fini.
Oui, on est d'accord. Surtout avec la génération qui arrive là, génération un peu plus jeune, même les plus anciens, mais c'est les plus jeunes, on voit tout de suite que la recherche de sens est le critère numéro un, en fait.
Absolument, absolument.
Si on revient un peu sur l'histoire des Melchior, donc tu démarres bouche à l'oreille avec des clients dans la restauration. Quand est-ce que tu commences à rentrer dans d'autres univers, l'hôtellerie, les marques, les événements?
Alors, donc j'ai commencé en 2009 à lancer des restaurants. Ensuite, on a travaillé pour des chefs. Emmanuel Renaud, Christophe Baquier, Eric Fréchon, forcément. Ensuite,
je te coupe juste un instant. C'est quoi la différence de travailler pour un restaurant et un chef? Tu travailles l'image du chef, mais en termes de métier ou d'accompagnement, comment ça se différencie, en fait?
Alors, quand on s'occupe d'un restaurant, notre job, c'est de faire en sorte que dès qu'il ouvre, quand on le lance, il soit complet.
D'accord.
Et qu'il soit complet, oui, mais sur la durée. Quand on fait de la communication, faire le buzz, c'est très facile. C'est facile de faire le buzz aujourd'hui. Par contre, durer et pérenniser ce qu'on fait, c'est le plus important. Nous, quand on accompagne un restaurant, on a 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est que dès qu'on ouvre, il soit complet et qu'il le reste. Voilà.
Ouais.
Et qu'on parle de lui régulièrement. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que nous, on vous apporte des clients, on fait venir les clients. Vous, votre job, c'est de les faire revenir. C'est un partenariat.
Bien sûr.
Moi, je ne vais jamais lancer un restaurant auquel je ne crois pas. Parce que si je les fais venir et qu'après les gens ne reviennent pas, c'est que le produit n'est pas bon.
Ça veut dire que tu sélectionnes? Ça t'est déjà arrivé de refuser des clients?
Ah ben, j'en refuse plein.
Ouais.
Alors, pour diverses raisons.
Ouais.
Je pense qu'à peu près depuis 2015, on refuse en moyenne 1 client par jour.
Ah ouais.
D'accord. Et sur quel argument tu leur dis, j'imagine que tu leur dis pas que tu crois pas au projet, c'est que...
Alors, je suis toujours très transparente, mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'agence a une certaine taille, et que je pense qu'on fait un métier intuiti personae. Les gens viennent nous chercher pour moi, pour mes associés, pour l'expertise qu'on a. Et moi, aujourd'hui, je sais que avec la taille que j'ai, on est 27 chez Melchior, je maîtrise tous les dossiers, je connais tous les clients, je parle à tous les clients et je fais toutes les stratégies de l'agence en collaboration avec les équipes.
D'accord.
Il y a rien qui part d'ici sans que ça passe par moi.
D'accord.
Rien du tout, jamais.
Donc ça veut dire que ça doit garder une certaine taille humaine et tu ne peux pas gérer non plus un déploiement à l'infini du nombre de clients. Ouais.
Je suis persuadée que dans le métier que je fais, je ne peux pas gérer un déploiement important.
Ouais.
Ça, c'est impossible.
Et puis, tu as besoin d'avoir une affinité avec le produit et même la personne.
Voilà. Donc, ça m'arrive très souvent de refuser parce que je ne veux pas recruter plus. Voilà. Parce que je le dis sincèrement, je ne crois pas forcément au projet. Et j'explique aux gens pourquoi je n'y crois pas. Parce que ça peut leur servir.
Mais c'est une forme de conseil. Conseil
tout simplement.
Faire évoluer ton projet, ton concept.
Oui, complètement. Ou aussi parce que ça ne correspond pas à Melchior.
D'accord. Voilà. Ça veut dire c'est un positionnement qui est trop éloigné de...
C'est pas un client qui va fitter à l'agence qu'on va savoir défendre.
Et quels sont justement quel est le positionnement de Melchior, les valeurs de Melchior?
Déjà une vraie conviction dans ce qu'on fait, une vraie sincérité, et pour reprendre un terme du fooding, le goût de l'époque.
Ouais.
Je trouve que moi, tous mes clients, ils ont le goût de l'époque.
Ouais,
et on essaie de l'avoir aussi. C'est très important. Mais en tout cas, on ne fait jamais rien. Moi, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. C'est quelque chose que m'a dit mon mari quand j'ai commencé à lancer l'agence. Il m'a dit, ne travaille jamais pour l'argent et tout ira bien. Parce que on travaille toujours par conviction. On est sincère dans les projets qu'on accompagne.
C'est là où on est bon.
Et le reste suit. Ouais. Voilà.
Super. Donc, j'étais coupé. J'ai cette mauvaise habitude. Je m'excuse. Mais on parlait. Donc, tu commençais avec les restaurants tout de suite.
Voilà, après les chefs.
Les chefs.
Ouais. Et après ensuite, l'hôtel. Les hôtels.
C'est un univers que tu connaissais, en fait.
Oui, complètement. Ouais. Et en plus, c'est un univers très connexe par rapport aux chefs. Souvent, les chefs sont dans des hôtels. Donc, quand on fait la communication d'un chef,
on finit par faire
la communication de l'hôtel. Et pour répondre aussi à ta question, qu'est-ce qui différencie la communication d'un restaurant d'un chef? C'est que, effectivement, un restaurant, comme je vous l'expliquais, l'objectif, c'est que le restaurant soit complet et le reste, avec le public qu'il a envie d'avoir.
Ouais.
Et aussi, par contre, un chef, on a une vision plus globale. Un chef, on doit le positionner.
Ouais.
On doit...
C'est du personal branding. C'est ça. Enfin, on positionne sa personnalité.
Ouais. On le fait intervenir sur plein de sujets. Un chef, aujourd'hui, c'est un prescripteur. Donc, il y a un objectif commercial, oui, que son restaurant fonctionne et ou ses restaurants fonctionnent.
En général, à ce niveau-là,
moi, je suis convaincue que ces restaurants, les restaurants d'un chef peuvent fonctionner parce que justement, il a au global son image est cohérente. Voilà.
Il a des valeurs sur l'approvisionnement, sa relation producteur, son engagement par
rapport à l'écologie. Cette cohérence, elle est très importante. Voilà. Moi, je dis toujours à mes clients que on ne peut pas mentir. Voilà. Parfois, il y a des clients qui me disent ouais, mais ça, on peut le faire comme ça. Ben non, en fait, parce que c'est pas toi. C'est pas toi. Et une communication qui n'est pas sincère ne sera pas pérenne.
Et justement, aujourd'hui, comment t'arrives à créer de la différenciation? Parce que tous les chefs aujourd'hui prennent la parole sur des thématiques, en effet, du sourcing, direct producteur, proximité avec les producteurs, engagement écologique. Donc finalement, ils prennent position sur, enfin, tous sur les mêmes sujets. Comment tu arrives avec tous ces. Avec en plus l'explosion de tous ces chefs qui deviennent des stars, à créer de la différence dans leur profil. En fait. Comment tu les positionnes différemment?
Alors, je dirais que chacun est différent.
Ouais.
Et que nous, notre travail, c'est de faire ressortir les aspérités de chacun.
Ouais, les aspérités, ouais.
Voilà. Moi, je sais que tous les chefs qu'on accompagne, moi, quand j'échange beaucoup avec eux, je discute avec eux, quand je goûte leur cuisine, on sait ce qu'ils sont, on sait ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est à nous de le percevoir et d'arriver à savoir les axes sur lesquels on va réussir à les positionner.
Ouais.
qui sont en fait qui sont eux-mêmes. On va pas chercher ailleurs.
Bien sûr.
On ne va jamais prendre des risques. Voilà.
Il faut qu'ils soient authentiques pour que ça marche.
Complètement.
Mais toi, tu vas orienter sur les points d'aspérité pour qu'il y ait aussi des éléments de différenciation et
complètement.
Ça ressorte.
Ouais. J'ai déjà rencontré des chefs qui que je n'ai pas trouvé sincères dans leur démarche.
Ouais.
Par exemple, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une énorme vague sur le green. Là, depuis que le guide Michelin a décerné des étoiles vertes, c'est bizarre, mais tous les chefs disent que depuis qu'ils ont commencé, ils sont tous green. Voilà. Et il faut distinguer les chefs qui le sont vraiment.
Faire un peu de tri, là-dedans.
Voilà. Les chefs qui le sont vraiment et qui l'ont toujours été, et ceux qui se disent, tiens, il y a une carte à jouer, allez, roule ma poule, on y va.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les phénomènes, ils donnent aussi, créent l'opportunité pour des opportunistes, entre guillemets, qui souhaitent...
Le fameux greenwashing qu'on voyait au-delà de la gastronomie. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'amener de la preuve et dire, moi, je suis engagé et je le prouve et je l'amène. Et c'est là où tes services aident les chefs à démontrer qu'ils sont engagés.
C'est une question intéressante des chefs parce que je pense que l'existence des Melchior coïncide un peu avec les chefs qui deviennent un peu des stars. Parce qu'en 2009, c'était peut-être pas encore le cas. Les chefs étaient déjà peut-être... pas de célébrités comme ils sont aujourd'hui. Comment tu as vu cette période de ton point de vue, en fait? Comment tu observes ces changements des perceptions de la société par rapport aux chefs?
Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette starisation des chefs, c'est que ça anoblit le métier. Comme je vous disais, moi, quand j'ai fait mes études, on m'a dit « ne pars pas en école hôtelière, tu travailles trop bien ». Aujourd'hui, je suis bien contente, qu'on choisisse l'école hôtelière par choix, parce que je trouve que c'est les métiers les plus extraordinaires du monde. Et toute cette starisation a permis ce genre de choses. Le côté pervers, c'est que cette starisation des chefs, il y a un côté très strass, paillettes, bling bling, qui fait qu'on a l'impression que tout est facile. Or, je ne connais pas un métier plus difficile que celui d'être chef.
C'est clair.
Et plus engageant et c'est un sacerdoce d'être cuisinier.
Oui, ils font du
chef, oui, mais cuisinier, pâtissier, tous ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, c'est un sacerdoce.
C'est bien de le rappeler. On en parlait avec Emmanuel Rubin, justement, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Si tu bosses la semaine, le week-end, le soir.
Mais c'est. Mon papa m'a toujours dit on travaille quand les autres prennent du plaisir.
Voilà, c'est ça. Voilà. Comment ça se fait quand les gens arrêtent de travailler?
Bien sûr, et moi je le vois, je vis avec un cuisinier, donc je sais très bien que le soir il est jamais à la maison, je sais qu'il travaille tout le temps et je sais qu'il fait des journées de 15-17 heures et je mesure ce sacerdoce chaque jour et justement, les clients qui nous font confiance, on doit être à la hauteur de leur investissement et de leur engagement.
C'est clair. Et c'est clair que ton expérience à titre personnel, ça t'aide à être plus sensible aussi à d'autres chefs parce que tu connais la réalité du métier, en fait.
Complètement. Moi, je sais qu'on parle le même langage que nos clients. Parler le même langage, c'est important parce que ça permet de gagner du temps. Gagner du temps parce que quand on leur propose des stratégies, on sait qu'on va pouvoir les déployer. Elles sont ambitieuses, mais réalisables. On sait qu'on va jamais appeler un chef quand c'est pas le moment. On sait qu'il y a des moments où on peut leur parler, il y a des moments où on peut ne pas leur parler. Moi j'ai une vision très opérationnelle. On a un restaurant avec mon mari, ce qui me permet aussi, qui s'appelle Lazare. Et le fait qu'on ait un restaurant, moi, ça me permet aussi de me confronter à des vraies problématiques opérationnelles de restaurateur.
Ouais. Tu es restauratrice aussi, donc...
Ce qui fait que c'est quelque chose que sur lequel je ne rebondis jamais, d'ailleurs j'en parle jamais, mais c'est important parce que moi, ça me permet de comprendre parfois des problèmes auxquels on est confronté, des problèmes de personnel qui sont quand même des gros problèmes de notre métier aujourd'hui, des problèmes d'amplitude horaire, des clients qui sont parfois mécontents, qu'on doit rappeler et que... Et c'est très important d'avoir ça et de parler le même langage que nos clients. C'est fondamental parce qu'on gagne du temps et ça les met en confiance.
Je fais une petite parenthèse. Du coup, donc tu es impliqué dans le projet du Lazare, c'est ça?
Oui, complètement.
Et quel rôle opérationnel tu as? Tu fais quoi exactement pour...
Avec mon mari, on se répartit les rôles de la manière suivante. Lui gère tout l'opérationnel, cuisine, salle, et les chiffres. moi, je travaille sur toute la communication, la relation client, tout le marketing, toute le positionnement et la vision que l'on veut le futur pour Lazare, on le travaille ensemble.
D'accord, je savais pas que tu étais impliqué dans le projet à ce point, d'accord.
Ouais, moi non plus.
Si, si, si. Mais c'est bien, comme tu dis, au moins ça te fait une, ça te donne une connexion avec opérationnelle avec le métier des chefs.
Ouais, complètement. Complètement.
Donc,
ouais,
vas-y, et d'un histoire de Melchior, en fait, en 2015, donc l'agence, bon, tu montes la boîte, que tu avais pas beaucoup d'ambition pour cette boîte-là, c'était juste pour facturer ces petits premiers projets.
Ouais, ouais.
Ensuite, ça devient une vraie agence, tu ramènes des nouveaux clients, et en 2015, tu changes les noms et l'agence devient Melchior.
Je pense que c'est vraiment là, en 2015, que j'ai commencé à avoir une vision de la boîte.
D'accord.
Avant, je n'en avais aucune. Je fonctionnais au jour le jour.
Bouche à oreille.
Voilà, ça marchait, ça marchait très bien, j'étais contente.
2015,
voilà.
Vous étiez combien
2015, on était 7-8, je crois.
D'accord,
7-8,
déjà.
Et aujourd'hui, vous êtes 27, hein, tu disais.
On est 27, oui, tout à fait.
Pourquoi le nom Melchior, d'ailleurs? J'aime bien les noms.
Parce que Melchior, c'est le roi mage qui représente l'ouverture sur les autres.
D'accord.
Voilà. C'est celui qui apporte la fortune au sens de chance.
Ouais.
Voilà.
Voilà.
Que c'est une bouteille de Bordeaux de 18 litres, je crois.
Ah, le Melchior.
Le Melchior.
Ah,
ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai.
Et que j'ai une grande passion dans la vie, c'est la galette des rois.
Ah, d'accord.
Et que tout ça, voilà, tout était très cohérent.
Donc, il y a une forme d'évidence sur
voilà,
ce nom. Hein.
C'est d'accord. Un nom très inspirant.
Et c'est pour ça que vous avez peut-être, j'ai dit pas de bêtises sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait une campagne de Melchior avec la galette des rois. Non, vous envoyez ça à vos clients ou à vos.
Oui, absolument. On a fait un petit portage sympa en début d'année.
D'accord.
On a fait faire des couronnes
c'est
personnalisées.
Ça. Ouais, j'ai vu ça, ouais.
Au nom de tous nos clients et de quelques journalistes avec qui
donc
on travaille très régulièrement.
Et
on a fait porter une galette à tous nos clients. Voilà.
Pour les clients, donc tu parlais donc des restaurants, des chefs, des palaces et des lieux. Et puis après, sont venues les marques. Donc maintenant, tu travailles aussi pour des marques.
Oui, on travaille pour, marques. Oui, on travaille pour beaucoup de marques.
Quel type de marque et quel type d'accompagnement?
Alors, des marques dans la food.
Ouais,
donc bonjour. C'est du caviar, du champagne, du chocolat, des épices.
En passant que tu dis la food, hein, ce qui est un sujet parce
ouais.
Que...
Ah ouais, la bouffe, on va parler de ça.
C'est clairement anglais ou soit agroalimentaire. Nous, on assume maintenant, dit dans la bouffe.
Alors moi, je disais toujours dans la bouffe.
Ouais, et ça nous intéresse d'avoir ton point de vue.
Ouais, bien sûr. Les gens me reprenaient en disant que c'était péjoratif.
Ouais. Oui.
Et justement, moi, j'adore le nom de votre podcast, parce que je trouve ça génial.
Ah bah, merci beaucoup, on va en parler.
C'est de le dire, donc je ferme ma parenthèse.
On fait parce que je veux faire tout un chapitre après.
Sinon, si je lance Daniel là-dessus, il va faire une heure et demie là-dessus. Donc les marques dans la bouffe.
Ouais. Et ensuite, il y a des marques plus lifestyle, pour lesquelles on aime beaucoup travailler, qui sont un autre champ de ce qu'on fait. Et par exemple, c'est Marin Montagu, qui est un créateur.
Ah oui, il a une petite émission sur
Paris Première.
Paris Première, je vois.
Exactement.
Cette émission qui est chouette. Hein.
Complètement. Marin est très très inspirant, donc on travaille avec Marin Montagu. On travaille avec BAM Karaoke Box. On commence à travailler avec Dynamo Cycling, parce que c'est bien de manger, mais il faut aussi pédaler.
Il faut se dépenser.
Voilà.
Ah, donc tu sors de la bouffe un peu, mais tu restes dans l'univers lifestyle. Comme tu
voilà, dis. Complètement. Ça reste du lifestyle. Et je trouve ça très intéressant parce que ça nous permet aussi de nous confronter à d'autres univers.
Bien sûr.
Moi, j'adore les challenges et ça en fait partie.
BAM Karaoke Box, ça reste proche de l'univers de la restauration, mais les vélos, ça change beaucoup en fait.
Ça reste du lifestyle.
Oui.
Par contre, on m'a proposé très souvent, on vient me chercher très souvent pour faire de la mode, pour faire du design, et j'ai toujours refusé.
Pourtant, il y a des parallèles, non? Pour toi, c'est vraiment un autre métier, c'est trop...
Moi, je suis persuadée que je suis tout à fait à même de faire du lifestyle en général. Mm-hmm. Dynamo, BAM Karaoke Box, Marin Montagu le prouve bien. Mm-hmm. Je trouve que pour le coup, la mode ou le design, déjà, sont des sujets pour lesquels je n'ai aucune affinité. Ouais. Je n'ai pas de connaissances.
Et on l'a vu, pour toi, c'est important d'avoir une affinité avec le produit.
Moi, je sais que je peux défendre, je peux vendre de la glace à un Esquimau quand j'y crois. Hein. en l'occurrence, je pense que la mode ou le design, je serais très mauvaise.
Ouais.
Et surtout, je ne connais pas l'univers, je ne connais pas les codes, je n'ai pas la culture de ça. Mm-hmm. Donc déjà, je le ferais pas avec sincérité. Encore une fois, cette sincérité, elle est capitale pour moi. Et je crois beaucoup à la spécialisation aujourd'hui. Je pense que depuis 10 ans, moi, j'ai vu un bouleversement total de notre métier. Mmh. Moi, quand je suis arrivée dans le métier, il y a 10 ans, quand on me parlait des attachés de presse, c'est très péjoratif, mais c'est ce que me disaient les gens. Ah, tu vas être attaché de presse ou tu fais attaché de presse, mais tu sais que les attachés de presse, c'est des rats de cocktail avec des mini-jupes. Hein. Ça m'avait vraiment choquée quand j'avais entendu ça. Et il y a 10 ans, 15 ans, tout le monde me disait, ah bah oui, c'est ça, ouais, ok, très bien. Et je trouve qu'aujourd'hui, le métier a complètement changé. Aujourd'hui, c'est un métier de stratégie. C'est un métier de réflexion. C'est un métier hyper global. Qui demande beaucoup, beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, la typologie de l'attaché de presse aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 15 ans. Et fort heureusement, ça a changé. Voilà.
Une autre question, parce que tu parles des changements, et une autre question qu'on se posait en préparant le podcast, c'est aussi l'émergence des réseaux sociaux, parce que tu l'as vécu en fait en 2009. Aujourd'hui, tu as vu l'explosion d'Instagram, et avec les réseaux sociaux sont arrivés les influenceurs, qui n'étaient pas les médias classiques en fait. Et on est très curieux de savoir déjà comment tu travailles avec les influenceurs et les médias, comment tu pondères ces deux médias différents, et comment tu vois cette émergence des influenceurs, surtout dans la bouffe, ils sont très 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 présents.
Alors moi déjà je distingue deux types d'influenceurs. Les influenceurs sociaux, qui sont les Instagrammeurs, dont leur métier c'est d'être Instagrammeur, et ensuite les influenceurs qui sont pour moi des prescripteurs, des leaders d'opinion, et qui sont puissants by the way sur les réseaux sociaux. Mais leur métier premier, ils ont une fonction première qui n'est pas d'être influenceur social. Et la différence pour moi elle est fondamentale. Parce que selon le client qu'on accompagne, on va plus lui recommander d'aller chercher de l'influence sociale ou alors de l'influence au titre de prescripteur. Et ça n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le milieu du tourisme, dans l'hôtellerie de luxe ou la destination, sur des destinations qui sont vraiment très très haut de gamme, je ne crois pas à l'influence sociale. Je trouve qu'aujourd'hui l'univers des influenceurs sociaux en tourisme n'est pas à maturité. Et leur audience fait que si par exemple je les invite une nuit dans un palace, ils vont faire des stories dans toute la chambre, magnifique, c'est formidable, c'est magnifique.
Alors, eux, ils vont se faire plaisir.
Ils vont se faire plaisir.
Mais est-ce qu'il y a un retour ?
Il n'y aura pas de conversion commerciale.
Pas de conversion.
Parce que leur audience, c'est pas une audience qui va payer 1500 balles la nuit.
C'est pas la même cible.
Complètement. Par contre, ces influenceurs-là, ils peuvent être géniaux pour des restaurants. Et certains types de restaurants et pas d'autres.
Plus accessibles.
Voilà. Donc, moi, je trouve que l'influence, c'est formidable parce que on est tous devenus des médias. Et ça, c'est génial.
C'est génial.
Après, il faut la pondérer parce que on se rend compte que tout le monde n'est pas influenceur qui veut. Voilà. J'ai tendance à dire qu'un influenceur.
Ça s'improvise pas,
voilà. Un influenceur qui réclame, c'est pas pertinent.
C'est pas un
bon influenceur.
C'est clair.
Voilà.
Et à l'opposé, donc les influenceurs au sens plus, bah, je vais pas dire plus noble, mais dont tu parlais, qui ont une vraie crédibilité dans la vie, c'est quel type de profil ? C'est des journalistes,
des journalistes qui sont aussi très puissants sur les réseaux sociaux. Ce sont des patrons de presse qui n'écrivent pas, mais qui sont très connectés. Ce sont des dirigeants d'entreprise. Ce sont des chefs. Voilà.
Si on revient un peu sur le modèle économique de l'agence, parce qu'on s'intéresse beaucoup à ces questions-là, aujourd'hui, si je suis un restaurateur et je veux travailler avec vous et mes valeurs, ils matchent les valeurs des Melchior, on s'entend bien et on a envie d'avancer ensemble, comment ça se passe ? Quelles sont les formes de collaboration ? C'est une mission ponctuelle ? C'est un accompagnement sur la durée ? Quelles sont les formes de collaboration et surtout les modèles économiques des Melchior avec ses clients ?
Alors déjà, moi, je considère que il n'y a pas de petits clients. Et ça, c'est quand même mon plus grand luxe. C'est moi qui décide de mettre à bord. J'ai deux associés avec qui on parle toujours et on prend toutes les décisions ensemble. Valérie Milgen et Valentine Dubois. Et on se paye le luxe de choisir avec qui on travaille, encore une fois, par conviction et par sincérité. Mais ce qui est important, c'est que on va accompagner des très gros acteurs, par exemple de l'industrie du tourisme. Et à côté de ça, on va aider un petit restaurateur qui lance un restaurant qui est vraiment 15 places et on va croire en lui et on va le lancer comme jamais quoi. Et ça pour moi c'est la liberté d'avoir le choix. Ça c'est très important. Forcément on n'a pas le même type d'accompagnement. J'ai tendance à dire qu'un restaurant, une fois qu'on l'a lancé, en principe il a plus besoin de nous. parce que un restaurant qui a encore besoin de communication un an après, c'est justement ce que je vous disais au départ,
c'est qu'il n'a pas pu fidéliser.
Voilà, il n'a pas réussi à faire revenir.
Oui.
Donc, en principe, pour les restaurants, on a des missions ponctuelles qui vont de 6 à 8 mois.
D'accord.
Et qui sont des missions de lancement du restaurant. Sachant que certains restaurants ont vraiment vocation, parce que ce sont des grosses machines, mmh. ils ont vocation à vivre dans la durée et à toujours avoir des insights. Typiquement, j'accompagne depuis 3 ans et demi, 4 ans, le groupe Bertrand, qui est un groupe que j'aime beaucoup. J'admire énormément la réussite d'Olivier Bertrand. Les gens qui travaillent au sein du groupe sont vraiment des gens formidables avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Mmh. Et on a relancé pour le groupe quasiment tout leur site parisien, les grandes brasseries. On a fait revivre les grandes brasseries. Ils ont impulsé une vraie dynamique de renouveau des brasseries parisiennes, ce qui a été très, très visionnaire. Mmh. Et nous, on les a relancés en presse.
Donc là, il y a un travail dans la durée, parce qu'il y a plusieurs voilà. établissements à relancer.
Et typiquement, une fois qu'un établissement est relancé, après, on arrive toujours à le faire vivre à des super actus. Voilà.
Ouais,
typiquement, au pied de cochon, on fait le Beaujolais chaque année, avec le Beaujolais nouveau avec des chefs, avec pas mal de médias, on fait toujours des grosses soirées. Là, on travaille sur un événement qui est encore confidentiel pour le mois de septembre, qui va être totalement inédit au pied de cochon. Et moi, ce que j'adore, c'est justement d'arriver à réfléchir à plein d'idées comme ça pour faire vivre les lieux en permanence.
Donc là, avec ce type de client, c'est un contrat annuel.
Annuel, absolument. Avec un fee mensuel qui est reconductible. Voilà.
Et dans l'hôtellerie, c'est plutôt aussi des missions de long terme. Non
ouais.
c'est...
En dehors des restaurants, pour lesquels on a des périodes de 6-8 mois, les restaurants qu'on lance, on ne fait jamais d'opérations ponctuelles.
D'accord.
Jamais. On est toujours sur des...
Hôtellerie, c'est
voilà. vraiment du long on terme. Est toujours sur des missions dans la durée pour une raison très simple.
D'un an à ce moment-là.
Voilà. Ouais. ouais. Mmh. Qui se renouvelle. Parce que j'estime que déjà, une image, ça se construit dans la durée. Mmh. Encore une fois, ce que je vous disais, faire du buzz, c'est simple, mais la pérennité, c'est ce qui est le plus compliqué. Et moi, je suis quelqu'un de très fidèle et je suis contente que mes clients le soient aussi.
Mmh. Moi, j'ai un exemple que j'étais assez scotché par les travaux que vous avez faits. On va même l'interviewer, donc on aura le temps d'en parler en détail. Mais on a vu récemment que vous avez que la Tour d'Argent est rentrée en tant que client chez vous.
Oui, oui, oui.
Et la Tour d'Argent, une image, c'est très connu, c'est l'institution en France ouais. et dans le monde de la gastronomie. Peut-être une image un peu vieillotte auparavant.
Classique, on va dire.
Ouais, classique, voilà. pardon. on va en parler. Mais j'ai regardé une émission, même un très très bon, il y a 3-4 mois, où ils n'avaient pas été méga bien notés. Mm-hmm. Et tout de suite, il y a un changement de chef. Et vous avez récupéré les comptes.
Mm-hmm. Il y a un changement d'agence de communication.
Et puis, je vois que des articles.
Voilà, ton argent partout.
Partout.
J'adore entendre ce genre de choses.
Ouais, Ruben, j'ai dit, mais waouh, j'ai dit, ouais,
libéré. Emmanuel Rubin fera une très bonne critique sur le tour d'argent.
C'est beaucoup votre travail. Je pense que c'est aussi beaucoup les choix du nouveau chef. Il y a plein de choses qui jouent.
Ouais.
Mais j'étais scotché par les changements des prises des paroles autour de cette institution-là.
Ouais. En fait, moi, je vais à la Tour d'Argent depuis 10 ans, mmh. chaque année, une fois par an. Je trouve que c'est une institution. Mmh. J'adore ce restaurant. C'est un restaurant vraiment, je l'adore. Et à titre perso, je l'aime tellement que quand j'ai su qu'il nous pitchait pour un appel d'offres, j'étais en transe intersidérale. Ouais. Quand je suis rentrée à l'agence en leur disant, ils m'ont tous regardé en me disant la Tour d'Argent. C'est comme quand il y a 4 ans, je leur ai dit on va s'occuper du groupe Bertrand. Ils m'ont regardé en me disant groupe Bertrand, Tour d'Argent. Ah. Et en fait aujourd'hui, ils sont oui. tout aussi convaincus que moi et en fait ils ont compris les enjeux. Ouais. Mm-hmm. Ils ont compris à quel point c'était passionnant de défendre des clients comme ça. Et la Tour d'Argent. Pour moi, c'est une institution. C'est une institution de la gastronomie parisienne et française.
Et mondiale.
Et je trouve qu'on ne peut pas taper sur des institutions. C'est pas possible. Et effectivement, l'arrivée du nouveau chef a été plutôt mitigée. Nous, on a proposé une stratégie vraiment globale parce qu'on ne travaille pas que sur le restaurant gastronomique. Mmh. On accompagne au global André Terrail, ouais. le restaurant gastronomique, le chef, la boulangerie, la rôtisserie, les produits de l'épicerie fine, etc. Mmh. Et c'est une mission globale qui a vraiment vocation à repositionner la Tour d'Argent. Moi, je trouve que André Terrail est un vrai visionnaire. Il est courageux. Il a vraiment beaucoup d'ambition. Mmh. Je trouve qu'il est très pertinent dans les choix qu'il fait. C'est très dur d'être un héritier. Mmh. Moi, j'ai pas mal de clients qui ont hérité
d'établissement. Ouais.
Voilà. Et je trouve que l'héritage est beaucoup plus compliqué que de monter une boîte.
Voilà. Je suis assez d'accord. Nous, on aura le temps de creuser tout ça avec André, parce qu'on l'aura dans les podcasts. Ouais. Mais nous, on vient du luxe. Donc, ces institutions-là, ça nous parle, en fait. Et, ouais. et je pense que c'est d'arriver à trouver une façon de les donner de l'appétence. C'est ce qui fait LVMH très bien. Hein. Je me souviens, Louis Vuitton, quand ils ont fait venir Marc Jacobs il y a 15 ans, ça a été un choc. Mais c'est ça qui a permis à Vuitton de se réinventer. Et je pense que des institutions comme Tour d'Argent, ils ont parfois besoin de ces types de... Bah, de c'est toujours réinventer parce que la base, elle est là, en fait.
Bien sûr. Et je pense que l'enjeu de la Tour d'Argent aussi, c'est d'arriver à attirer une autre clientèle. Par exemple, en mai dernier, on travaillait pas encore pour la Tour d'Argent, on y avait fêté l'anniversaire de Valentine, mon associée, et on avait fait une table, donc trois filles, ils étaient épatés, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça, et en fait vraiment d'arriver à avoir une autre clientèle féminine, plus jeune, etc., typiquement, enfin moi j'ai envie qu'on dise ouais je suis allée à la Tour d'Argent entre copines quoi.
C'est clair.
Vraiment.
Justement c'est un très bon cas d'école. Comment tu fais pour entre guillemets dépoussiérer l'image d'une institution comme ça? Comment tu t'y prends concrètement?
Alors ça pourrait faire l'objet d'un podcast plusieurs heures.
Mais juste avoir quelques petits éléments pour mieux comprendre.
Je dirais déjà dans les messages que l'on transmet, dans les événements que l'on monte, dans les partenariats que l'on peut faire. Voilà, je pense que c'est les messages, les événements, les partenariats.
C'est travailler d'autres, enfin un autre positionnement, enfin faire évoluer le positionnement, voilà. Le discours, la tonalité,
c'est
les partenaires.
Amener le client sur d'autres territoires. Ouais. Voilà, on est là pour sortir les gens de leur zone de confort.
Bien sûr. Ouais. On aura l'occasion d'en parler avec André Terrail.
Oui, bien sûr. Tu fais mention donc à Valérie et Valentine, tes deux associées. Ouais. On a vu que en fait tu les as fait. Elles sont devenues associées récemment.
En juin dernier.
Je suis très curieux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait pourquoi cette décision et quel est les enjeux. Et si tu peux parler un peu de l'équipe parce que tu parles des 27 personnes. Si tu peux nous parler de profil type de l'équipe.
Oui. Alors donc on est 27 à l'agence. J'ai plusieurs types de métiers, donc des attachés de presse, des directeurs, directrices de clientèle, des community managers, social media managers, graphistes, rédacteurs. Après j'ai une assistante, une office manager. Voilà, j'ai fait le tour.
C'est une équipe qui est très féminine, on a remarqué en fait.
On a deux garçons.
Sur 27.
Ouais. Absolument.
C'est le paradoxe dans la gastronomie.
Ils sont très heureux.
Dans la gastronomie, on a beaucoup de chefs hommes.
Exactement.
Mais dans la communication,
la communication est un
équilibre.
Métier principalement féminin. Ouais, absolument.
Il faut que les hommes ils soient mieux représentés.
Mais les hommes sont toujours beaucoup représentés et c'est bien qu'on arrive à contrebalancer chez Melchior.
Ah, d'accord. Décision donc de les faire,
Alors Valentine est arrivée à l'agence il y a 6 ans, semble-t-il, en stage. Voilà, elle a fait tous ses stages ici, elle a été embauchée. Je l'ai embauchée avant même la fin de ses études, même parcours que moi. Valérie est arrivée à l'agence il y a 3 ans. Valérie est arrivée à l'agence il y a 3 ans parce qu'il y a 3 ans, je me rendais compte que j'étais à une sorte de plafond. Je pense que la force d'un dirigeant d'entreprise, c'est de se rendre compte de ses limites, de ses faiblesses et parfois de périodes charnières dans le développement de la boîte. Et moi, je me rendais compte que j'étais arrivée à une période où j'avais des faiblesses. J'étais pas forte en médias chauds. TV, radio, j'y arrivais pas. J'avais pas une expertise assez poussée sur la com corp et la com de crise. Et voilà, j'ai rencontré Valérie. On s'est rencontrés par une amie interposée. Ça a été un coup de foudre. Et elle est arrivée à l'agence et elle m'a aidée à grandir, vraiment. Et Valentine, elle a toujours été là. On a construit l'agence ensemble. Elle connaît toute l'agence aussi bien que moi. Et elles sont toutes les deux, et je le dis vraiment sincèrement et je le pense, elles sont mes âmes sœurs, quoi, du boulot. Moi, j'ai une âme sœur dans la vie perso, j'en ai deux dans la vie pro. Et c'est très précieux.
C'est bien entouré, c'est bien.
Ouais.
Et comment vous répartissez les rôles, justement, aujourd'hui?
Alors, Valentine dirige toute la division des chefs, des restaurants. Valérie dirige les marques et le tourisme.
D'accord.
Moi, je dirige en prise directe toute la partie digitale. Et ensuite, évidemment, je supervise toute l'agence.
L'ensemble.
Voilà, complètement.
Et une autre question qu'on avait par rapport au marché aussi, c'est qu'on a l'impression, mais peut-être on se trompe, qu'il y a une explosion d'agences, des conseils dans les lifestyle, dans la gastronomie, dans la bouffe, ces dernières années. Est-ce que tu partages cette perception, lecture, cette perception, ouais. Et si oui ou non, pourquoi?
Ça me semble assez cohérent dans la mesure où on parle plus de food. Tous les gens se disent qu'ils peuvent en faire leur chou gras, imagine. Donc c'est corrélé au fait qu'il y a une starisation du métier, il y a vraiment beaucoup de highlights sur ces univers-là. C'est bien. Moi, je trouve que la concurrence est très saine. Je trouve que c'est toujours très positif. Après, j'entretiens de bonnes relations avec la plupart de mes concurrents pour une raison très simple, c'est que je suis convaincue que chacun a ses territoires.
Bien sûr. C'est que tu disais que tu refuses un client par jour, donc finalement, voilà. Certains, ils doivent trouver une agence finalement.
Exactement, exactement, exactement. Parfois, ça nous arrive de nous battre pour des trucs que tout le monde veut.
Ouais, c'est normal,
c'est la lol du métier, mais c'est très sain. Et chacun a son territoire.
Tu arrives à diriger un client en disant, écoute, c'est pas un bon fit pour Melchior, mais je pense que cette agence-là...
Ouais, bien sûr. Ouais. Complètement.
Bah, c'est super.
Complètement. Ça. Parce que je sais qu'il y a des agences qui travaillent très bien, oui. Et du coup, j'ai aucun souci à les recommander.
Et c'est vrai que pour nous qui sommes pas dans les métiers de spécifiques de l'agence, des communications spécifiques de la restauration hôtellerie, etc. Un nouveau restaurateur qui se lance, il a pas une vision globale du marché, donc il ne connaît pas tous les acteurs, il sait pas peut-être à qui il a entendu parler des Melchior, donc il vient vers toi, mais il sait pas qu'à côté il y a trois autres agences qui pourraient l'accompagner aussi. Donc je pense que de les diriger vers quelqu'un, c'est toujours de la valeur ajoutée,
en fait. Bien sûr. Et en plus, moi, il y a plusieurs restaurateurs qui m'ont dit oui, mais qui nous ont appelé en disant « Je vous appelle, mais je pense que vous êtes trop gros. » Moi, c'est le genre de truc que je déteste entendre parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a pas de petits clients. Et que nous, quand on aime le projet, on le fait, quoi.
Et tu penses que ça vient d'où, cette image d'être trop grosse? Parce que tu travailles avec des clients d'envergure?
On a des clients qui sont peut-être des gros clients en termes de taille, de volume, de chiffre d'affaires et de notoriété. Et du coup, peut-être que les restaurateurs qui se lancent, ils se disent, j'ai pas les moyens. Ou alors, justement, je correspond pas à cette typologie-là. Et quand on analyse notre typologie de clients sur les restaurateurs qu'on accompagne, on lance très souvent plein de restaurants divers et variés, des petits restaurants, des grands restaurants, et en fait, encore une fois, on n'est pas guidé par une question de taille ou de business, quoi.
Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur du coût pour imaginer un entrepreneur dans la bouffe qui veut monter un restaurant, qui a un profil restaurateur, ça coûte combien un accompagnement pour un lancement à peu près avec tes services?
Alors, c'est très aléatoire. Je peux pas vous donner de chiffres parce que ça dépend vraiment du périmètre.
Ouais.
Ça dépend qu'est-ce qu'il va nous confier. Est-ce qu'il va nous demander du conseil? Est-ce qu'il va nous demander des conseils plus du RP, des conseils des RP du social media management? Donc après, ça dépend le périmètre de la mission. Voilà. Et ça dépend aussi de la taille du restaurant.
Et de l'implication de tes équipes.
Absolument.
Avant de démarrer les podcasts, tu nous disais que tu étais une grande consommatrice des podcasts.
Ouais.
Donc ça nous intéresse
d'avoir ta vision sur ce média.
Et parce que c'est qui nous a aussi, on était assez contents. Je pense que Melchior, c'était la première agence de communication, qui est venue vers nous assez rapidement. En fait, on avait un mois d'existence pour dire on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que on a des clients qui sont très intéressants pour vous peut-être, etc.
Donc on salue Marion et Capucine.
Merci beaucoup, et on trouvait ça hyper chouette de cette vision de dire putain, les podcasts, même ils viennent de se lancer, mais on nous propose déjà des profils assez intéressants. Pourquoi cette passion ou cet intérêt pour les podcasts?
Alors moi, ce que je trouve formidable dans les podcasts, c'est le temps long. C'est la possibilité de pouvoir s'exprimer, de prendre le temps de s'exprimer, de prendre le temps d'échanger et de pouvoir se nourrir à n'importe quel moment. Voilà.
De choisir.
Moi, j'ai une problématique de temps. Je suis toujours connectée, mais j'écoute la radio, je regarde la télé, je lis les médias, vraiment tout. Je ne m'interdis rien, mais par contre, j'ai cette problématique de temps. Et ce qui est génial, je dors peu, c'est que les podcasts, je peux les écouter à n'importe quelle heure.
Tu écoutes à quelle heure et quel moment de la journée les podcasts?
Alors moi, je me lève très tôt le matin.
D'accord. Genre à 5h du matin?
Je me lève à 5h30, 6h pour travailler. Je travaille toujours 1h, 1h30 le matin avant que mon fils se lève. Et justement, c'est un temps pour moi. C'est un temps où au calme, où je peux justement faire des choses que j'ai pas le temps de faire la journée parce que je suis complètement débordée. Et justement, là, j'ai des podcasts. J'ai toujours un podcast dans les oreilles le matin.
D'accord. Tu travailles en écoutant un podcast.
Et le soir, avant de me coucher, toujours.
Tu couches avec un podcast?
Ouais, toujours.
Ah, sympa. Faut qu'on lance une émission pour aider les gens à bien dormir.
Non, en fait, je trouve que ça permet vraiment de réfléchir. J'écoute évidemment, j'ai écouté tous vos podcasts, vraiment.
Merci beaucoup.
Les connais tous et ils sont super.
Merci.
Et je trouve que c'est très pertinent d'avoir fait ce que vous faites parce que on parle toujours de la bouffe sous différents angles, mais de le traiter sous la partie business avec la manière dont vous la traitez est très pertinente et très intéressante. Il y a des podcasts que j'écoute par nécessité et des podcasts que j'écoute par plaisir, et Business of Bouffe fait partie des podcasts que j'écoute par plaisir.
Écoute, ça nous fait très très plaisir.
Voilà.
Très très plaisir. Et j'en profite pour t'ai posé une deuxième question, c'est par rapport à la bouffe, parce que là on a un expert devant nous, donc on va voir ton avis. C'est un choix évidemment stratégique, exprès d'assumer les mots bouffe dans notre nom, surtout de jouer avec ses côtés business of bouffe. On s'inspire pas mal des business of fashion, qui est un média dans la mode.
Super.
Et on a eu des réactions assez mitigées. Par exemple, on avait Claude Gruffat, qui est l'ancien président des Biocoop, qui a quoi, 60 balais quand même.
60 ans.
Il comprenait pas trop les mots bouffe, il trouvait ça, voilà, un peu fort.
Alors, certaines personnes l'associent encore au mot malbouffe, même si nous on leur explique.
Michalak nous disait qu'aux premières réactions, c'était au business of bouffe, un peu bizarre.
Ouais, ouais.
Quelle est, toi, ta lecture du mot bouffe? Nous, notre pari, c'est vraiment d'essayer de démocratiser les mots bouffe et de les rendre moins péjoratives. On est parti là pour une mission des 10 ans, peut-être, mais on y croit.
Personnellement, on préfère bouffe que food ou agroalimentaire.
Alors, je suis complètement d'accord. Et moi-même, depuis 10 ans, j'ai un gros problème pour définir la bouffe.
Bah, c'est ça.
Parce
que
quand je dis, on est spécialisé en gastronomie, je trouve que c'est pas du tout, ça ne définit pas bien ce qu'on fait.
Oui, c'est une catégorie,
La gastronomie, c'est une catégorie de la bouffe. Dire la food, je trouve que c'est dommage il vaut mieux franciser.
C'est ça.
Voilà. Et par contre, moi, je disais toujours bouffe avant, et j'ai des clients qui m'ont dit, mais c'est hyper péjoratif de dire bouffe.
On est complètement d'accord.
Voilà. Et moi, je suis très contente de dire bouffe.
Si tu peux.
Voilà.
Et si tu te lâches.
Ensemble, démocratisons le mot bouffe.
Voilà, exactement. Et il faut le rendre moins péjoratif.
Complètement. Et tout le monde le dit, en fait. Moi, je suis brésilien, donc j'ai moins cette subtilité avec la langue française. Mais autour de moi, tout le monde dit, je vais bouffer, j'ai pas bouffé, j'ai envie de bouffer, la bouffe, la bonne bouffe.
C'est un mot du quotidien.
Il y a l'émission qui veut être mon associé. Et à un moment donné, il y a Marc Simoncini qui prend la parole. Il dit, oui, mais ça, c'est un concept dans la food. Et il y a M6 qui met des sous-titres food, mot anglais utilisé pour parler du secteur agroalimentaire. C'est fou.
Ouais. D'ailleurs, interpellé sur Instagram, pour dire, il aurait fallu dire bouffe.
Il faut dire bouffe.
C'est notre mission maintenant.
Et voilà, là, c'est une mission qu'on s'est donnée, c'est de démocratiser les mots bouffe et les rendre un peu moins péjoratifs.
Mais c'est bien.
Clarisse va nous aider dans cette mission. C'est bien. Il y en a trois.
Et encore une fois, ce que je trouve intéressant dans les podcasts, pour revenir là-dessus, c'est que moi, depuis que j'écoute des podcasts, j'ai toujours dit à mon équipe, et très rapidement d'ailleurs, vous l'avez souligné, que c'est bien d'aller chercher ce type de médias parce que, encore une fois, ça montre qu'on est à l'écoute du marché, qu'on propose à nos clients de nouveaux médias, qu'on voit ce qui se passe, qu'on suit, et ce temps long est important.
Super important, on est d'accord. Et c'est un contre-pied par rapport aux réseaux sociaux, où c'est du temps court, en fait, c'est de l'éphémère, même les stories, ça dure 24 heures et après...
Absolument.
On effleure
absolument.
Les sujets et nous on voit, c'est le retour qu'on a de nos invités qui reviennent vers nous et où en nous disant ils ont réussi à rentrer en profondeur dans les sujets et du coup à engager nos auditeurs.
Et c'est qui est intéressant au-delà du temps long, c'est un format qui reste dans la durée parce qu'en fait nous on a enregistré nos premiers épisodes en novembre et ils continuent à faire des écoutes et en fait d'ici 3 ans ils vont continuer à faire des écoutes.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un contenu qui reste dans la durée, c'est un patrimoine. Évidemment. Et je pense que c'est très intéressant, c'est un format qui, nous, on aime beaucoup.
Très bien. On revient sur le sujet.
Non, j'avais une dernière question sur les podcasts. C'est en fait, il y a aussi, donc, du coup, comme c'est un format qui intéresse à la fois les écouteurs et aussi bah, les marques, il y a beaucoup des marques qui s'y mettent à lancer des podcasts.
Ouais, bien sûr.
Et j'aimerais avoir un peu ton avis par rapport à ça et si tu fais la recommandation à certains de tes clients de lancer un podcast.
Ouais, j'ai fait la recommandation à 3 de mes clients de créer un podcast.
D'accord.
Par contre, créer un podcast avec un vrai angle. Voilà. Créer un podcast, par exemple, en disant, les coulisses du lieu, je trouve ça sans aucun intérêt. Mmh. Par contre, moi, il y a 2 podcasts de marque que je trouve intéressants. Enfin, un de, notamment, Mouiller la chemise de Figaré.
Ah, je connais pas.
C'est Figaré, la marque de chemise, qui fait un podcast qui s'appelle Mouiller la chemise.
Ouais, j'aime beaucoup le nom.
Bah, le nom est sympa.
Voilà, et qui justement a vocation à faire parler des gens qui osent, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, dans l'audace. Bah. Et je trouve ça super intéressant de partir d'un sujet comme ça et ils interviewent des personnalités diverses et variées du monde de l'entreprise. Mmh. Voilà, je trouve que c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire pour un client et on y travaille.
Bah, j'en profite pour faire un peu notre pub. En fait, nous, actuellement, on discute avec certaines marques l'idée de faire des hors-séries. Donc ça, c'est une collaboration.
Bien sûr.
C'est voilà, Business of Bouffe avec machin.
Et hyper on intelligent.
Et une mini-série des podcasts. Et là, l'avantage, c'est qu'on connaît un peu les formats et on a déjà l'audience. Donc, ça aide à accélérer les choses et on peut aussi l'incarner avec la marque en fonction de leurs besoins, de leur valeur, etc. Minute pub, j'arrête.
Mais tu fais bien, profitons-en.
On s'intéressait aussi aux chiffres d'affaires parce que on aime bien parler business. C'est un sujet que les gens sont parfois pas à l'aise. On était avec Frischti la semaine dernière. Ils ont une conviction de ne pas communiquer leurs chiffres. Je comprends parce qu'ils lèvent beaucoup d'argent, etc. Vos chiffres, ils sont disponibles sur Internet. On les a retrouvés sur société.com. Mmh. Et on a appris que vous faisiez 2 millions déjà des chiffres d'affaires, un peu plus de 2 millions en 2018. Ça commence à faire une jolie société. Vous avez quoi comme vision par rapport au développement de l'activité, les chiffres pour les années à venir? Il y a une ambition par rapport à ça?
De manière très pragmatique, je pense qu'on va être sur un chiffre d'affaires à peu près à 3 millions en 2020.
D'accord. Mmh.
Moi, encore une fois, je calcule jamais en chiffres. Mmh. Quand on me donne le chiffre d'affaires au bilan, moi, je suis très contente, je trouve ça cool. Voilà. Quand je pense de projection, de développement, d'avenir, je me dis pas, ouais, je vais atteindre tel chiffre d'affaires. Non. C'est plutôt, quels sont les projets pour l'avenir? Voilà. Mmh. C'est plutôt comme ça que je fonctionne. Je pense que Melchior n'a pas vocation à se développer davantage en termes de nombre de salariés, de taille, parce que je pense que dans ces cas-là, je perdrai la qualité.
Tu veux contrôler,
Voilà. Ouais. Je ne veux pas perdre la qualité. C'est impossible. Ouais. Je veux dire, c'est inconcevable pour moi d'arriver de me dire qu'à un moment donné, je vais faire une concession. J'ai pas envie de faire de concession, je n'en ferai pas. Donc après, c'est à moi d'être créative pour arriver à trouver d'autres moyens de développement. Moi, je trouve que un développement qui est très intéressant, c'est d'arriver à fédérer mes équipes et à les faire grandir. Mmh. Moi, je suis hyper fière de mes équipes. Je trouve que je les aime tous beaucoup. Ils sont pertinents, ils se battent, ils sont intelligents. Et d'arriver à les faire grandir, d'arriver à les faire évoluer, c'est ce qui me plaît. C'est un gros challenge. Moi, j'ai pas envie qu'ils aillent ailleurs pour dire voilà, ben je vais passer à un autre poste mieux ailleurs. Mmh. Moi, je me dis toujours ok, cette personne, elle a ses qualités. Comment je peux la faire progresser? Comment je peux la faire évoluer? Et même les gens qui sont très jeunes. Regardez Valentine, elle est arrivée en stage à l'agence, elle avait 19 ans, elle n'est jamais partie.
Et aujourd'hui, elle est associée.
Et elle est associée, elle a 25 ans.
Mmh. Super.
Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai été jeune, on m'a fait confiance quand j'avais 21 ans. Et j'essaie de faire confiance aussi et je fais tout pour faire confiance aux jeunes. Et je trouve que donc développer et faire grandir mes équipes, ça c'est très important. Après, aller explorer aussi d'autres territoires, toujours être en veille. Moi je dis toujours, on doit être agile. Je pense que l'agilité est une valeur fondamentale de l'entrepreneuriat aujourd'hui.
On trouve partout,
voilà, c'est fondamental. Et on doit être capable de toujours se challenger et de sortir de notre zone de confort. Typiquement, quand il y a voilà, quand il y a un an et demi, j'ai dit à mes équipes, on va pitcher les podcasts qui comptent et on va appeler les podcasts. Au début, nos clients, ils nous ont dit, mais vous croyez que j'ai 3 heures à... Et en fait, on a une grande force de conviction et on leur a dit, mais non, écoutez, faites-nous confiance, quoi. Et je suis très contente. Et par exemple, il y a 5 ans, même 7 ans maintenant, 7 ans, j'avais lancé une cellule réseaux sociaux, gestion des réseaux sociaux, qui pendant 2 ans a été totalement à perte. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, je suis contente parce que on est hyper pertinent pour gérer les réseaux sociaux de nos clients. Et je pense que je l'ai fait au bon moment.
C'est clair.
Je l'aurais fait il y a 2, 3 ans, 4 ans, ça aurait été déjà trop tard.
Mmh.
Voilà. Et pour moi, le développement passe par ce genre, l'avenir passe par ce, voilà, explorer de nouveaux territoires.
Être envahi et explorer de nouveaux territoires.
Il y a une nouvelle rubrique que j'aimerais bien rajouter dans notre podcast.
Vas-y, fais-toi plaisir, Daniel.
On parle des équipes, mais c'est par rapport aux gens qui nous écoutent et qui aimeraient travailler chez Melchior. Qu'est-ce que tu recommandes, en fait? Quelle est la meilleure façon de prendre contact avec Melchior? Est-ce qu'il y a des profils qui t'intéressent?
Quel type de profil tu recherches, voilà.
Alors, il n'y a pas de profil particulier. Nous, ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés et qui sont experts. Voilà. Moi, ça m'arrive malheureusement souvent de recevoir des gens en entretien qui me disent « Je suis passionné depuis que je suis petit par la gastronomie. » On leur demande un nom de chef et ils nous disent que des chefs de la télé.
Ouais.
Et ils sont incapables de donner des gens du secteur qui sont pertinents. Ils sont incapables, je leur demande « Quel est le dernier restaurant que vous avez fait ?» Big Mama. Okay. Bon, il y a pas de fond, voyez. Donc moi, je veux des gens passionnés, des gens qui sont experts et qui sont des warriors, parce qu'on est tous des warriors ici.
Il faut donner.
Ouais. Voilà.
Faut tout donner.
Parlons de la suite.
La suite, même si on a commencé à en parler déjà, mais on peut
oui,
enchaîner.
Oui. Ouais. On a cette. Donc, tu écoutes notre podcast, ça nous fait très plaisir, et tu connais donc la dernière rubrique, c'est les enjeux pour la suite.
Ouais.
Quelle est ta vision pour Melchior d'ici à 5-10 ans? Et au-delà des Melchior aussi, comment tu vois évoluer la communication, la cuisine, les chefs, cet univers qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années? Comment tu vois les prochaines étapes?
Alors là, je pense que déjà le marché de la bouffe est plutôt arrivé à maturité.
Mmh.
Aujourd'hui, les chefs ont connu et connaissent encore leur heure de gloire. Mmh. Maintenant, ce sont les pâtissiers.
Mmh.
Je pense que tout va continuer sur les différents métiers. On commence à parler de plus en plus des métiers de salle qui ont grandement besoin d'être valorisés, revalorisés, vraiment. Les métiers de salle, les sommeliers. Et petit à petit, je pense que cette starisation et cette médiatisation va rejaillir sur tous les métiers.
D'accord, ça c'est un peu important. Ouais.
Voilà. Ensuite, pour la communication, je pense que c'est un secteur qui a vraiment vocation à se professionnaliser de plus en plus et qui a vraiment vocation à travailler sur des chiffrages, sur des outils. Aujourd'hui, encore une fois, comme je vous le disais, il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait faire du PR en ayant un téléphone. Ça suffisait, et un bon réseau. Aujourd'hui, je pense que la pertinence joue beaucoup, la réflexion, la veille, le benchmark. Moi, j'ai depuis le mois de janvier, j'ai créé un nouveau poste au sein de l'agence qui est un poste de planeur strat que je n'avais pas avant. Et je pense que dans aucune agence de presse, il y a des planeurs strat parce que justement, moi, je demande du benchmark à cette personne, de la veille concurrentielle, des cahiers de tendance pour comprendre vraiment ce qui se passe et explorer l'univers. Et je pense qu'aujourd'hui, ça passe par ce genre de choses.
Super, ça c'est très important. Ouais. On passe beaucoup de temps, nous aussi, à benchmarker des podcasts ou des activités, des conseils pour mieux peaufiner les choses. Et donc, on passe sur les questions rituelles.
De la fin, exactement, vas-y.
Plutôt personnel. Pour toi, quels étaient les plus grands échecs d'apprentissage avec Melchior et la plus belle réussite, fierté?
Alors, le plus grand échec, ça a été un appel d'offres que j'ai perdu il y a 2 ans et demi.
Ah, avec qui tu peux nous dire?
Non, je peux pas dire. J'avais signé des NDA.
Comment ça s'est passé?
C'est un appel d'offres qu'on a perdu il y a 2 ans et demi.
Pourquoi tu l'as perdu, tu sais?
Alors, déjà, il faut savoir qu'on fait très peu d'appels d'offres. Parce que forcément, vu qu'on travaille beaucoup par le bouche à oreille, on rentre pas sur des appels d'offres. Quand on rentre dans un appel d'offres, c'est rare. Et quand on y va, c'est que le projet nous excite à fond et qu'on a envie de le faire.
Qu'est-ce qu'on vous demande dans un appel d'offres pour une agence?
Il y a un brief.
D'accord.
Un brief, un cahier des charges, et on répond au brief. On doit présenter un projet. Souvent, il y a. Moi, je ne vais jamais dans un appel d'offres où il y a plus de 3 agences. Jamais. Et donc là, on y est allé. Le projet nous excitait à fond. On était à 400%. On a bossé, mais comme des fous sur ce projet. Pendant, je crois, j'ai vécu pour ça pendant un mois où vraiment j'étais focus là-dessus. J'ai tout donné. J'aime pas perdre, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand j'y vais, je me donne toutes les chances d'y arriver. Voilà. Il faut toujours donner les moyens de ses ambitions. Et là, on avait tout donné et je n'avais même pas laissé une brèche de possibilité de ne pas réussir. Et objectivement, avec du recul, je pense qu'on avait présenté le meilleur projet qu'on ait jamais présenté à l'agence. Et on a perdu cet appel d'offres sur une raison stupide. Et j'ai mis un mois à m'en remettre.
Quelle était la raison? Tu peux nous.
Quelle était la raison? C'était. On a trouvé que les influenceurs que vous avez proposés manquaient un tout petit peu de pertinence sur deux profils sur les 50 qu'on avait proposés.
Wow.
Sachant que c'était un projet qui faisait 160 pages. Ouais.
C'est qu'ils avaient peut-être pas envie de travailler avec vous, ils avaient peut-être dans l'article.
Alors, en fait, bon, déjà, j'ai mis un mois à m'en remettre. Ça a été pendant deux semaines, j'ai pas dormi, ça a été très compliqué. J'étais groggy. Quand j'arrivais à l'agence le matin, je faisais semblant, mais ça a été compliqué. Mmh. Et j'ai appris un mois après que l'appel d'offres, il était pipé depuis le départ. Et qu'en fait, ils ont demandé à l'agence qu'ils ont fait gagner d'appliquer notre projet. Ah, ce qui n'est pas très honnête. Et deux ans et demi après, je sais que le projet n'a jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, j'en ris. Et c'est un énorme bide et je suis très contente. Mais je l'ai mal passé, celui-là. Je l'ai très mal passé. Et voilà. Après, les réussites, alors je dirais qu'il y en a trois. La première, c'est que je suis hyper fière de faire ce que j'ai fait de Melchior. Mmh. Parce que y a quelque chose que j'ai très mal vécu quand je suis arrivée il y a 12 ans, quand j'ai quitté le Bristol, c'est que, c'est très personnel, mais je n'étais que la femme d'eux. Et ça, c'est très franco-français de dire « Ah ben, c'est la femme de Fréchon !» Et en fait, moi, je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour être dans l'ombre de quelqu'un. Mm-hmm. Je déteste qu'on catégorise quelqu'un à un statut de possession, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je trouve ça ahurissant. D'ailleurs, on le fait jamais pour les hommes, alors pourquoi on le ferait pour les femmes? Et moi, quand j'ai commencé les premières années, c'était toujours « Ah, mais tu sais, c'est la femme de Fréchon qui a une agence de com'. » Et je trouvais ça insupportable. Et petit à petit, j'ai tracé ma route, j'ai fait mon chemin. Je suis hyper fière de Melchior. Je donne tout à cette boîte. Je donne tout le temps. J'y mets mes tripes tous les matins. Et sans concession, et pour moi c'est important. Et je partage vraiment tout avec trois personnes, Valérie et Valentine évidemment qui sont mes associées, mmh. Et je partage tout aussi avec Eric, mon mari, parce que il est déjà il est vraiment mon modèle. Mmh. Il m'a aidé vraiment à grandir. Il m'apporte beaucoup. C'est vraiment la clé de tout, mmh, pour moi, parce que forcément, il est plus âgé, il a plus de recul, il a plus d'expérience. Il fait pas du tout de communication, donc parfois il me donne des clés qui sont très pertinentes et auxquelles j'avais pas pensé, parce que justement, il est out of the box.
Ouais.
Et d'échanger avec lui, c'est extrêmement précieux pour moi. Vraiment, c'est très, très, très précieux. Après, je dirais que la deuxième réussite, c'est que je suis hyper fière que les gens, que les clients avec qui on travaille nous fassent confiance. Mmh. Vraiment. Parce que j'admire tellement les clients qu'on a. Je les admire.
Et dans la durée, c'est-à-dire qu'ils font appel à toi régulièrement, ouais. Ils reviennent vers toi, ce qui est
ouais,
un signe.
Ouais. Exactement. Et moi, je les admire tellement que je me dis qu'ils aient confiance en nous. Putain, qu'est-ce que je suis fière, quoi. Ouais. Et on doit être à la hauteur de ça. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. On doit être à la hauteur de ça. On doit être à la hauteur de la confiance qu'ils ont mis en nous. Mmh. Et voilà, je pense que c'est une de nos grandes réussites. Et après, pour terminer, je dirais que c'est... on fait un métier où on ne coupe jamais. Moi, je ne débranche jamais, je ne coupe jamais, je suis toujours en veille, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis une grosse bosseuse, j'ai une énorme puissance de travail. Par contre, j'ai une vraie vie privée et un équilibre vie privée, vie pro. Pour moi, c'est fondamental, vraiment, c'est fondamental. Et voilà, je suis très heureuse parce que les premières années ont été dures. Mmh. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé un équilibre pro-perso dans lequel je suis très épanouie. Je passe beaucoup de temps avec mon mari et mon fils. Je m'occupe beaucoup de l'éducation de mon fils. Je suis très intransigeante et je pense que être parent, c'est mille fois plus dur que de faire de la communication ou de faire n'importe quel métier au monde.
D'accord, confirme.
Mais voilà, et moi, je suis de signe astrologique balance et j'ai besoin de cet équilibre. Et plus j'ai cet équilibre, plus je suis forte. Voilà.
Super, on va continuer. Continue.
On a une autre question rituelle, comme tu le sais, vu que tu écoutes nos podcasts. Et quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe?
Travailler. Première chose, parce que rien n'est facile.
Ouais.
Moi, je me dis tout le temps, quand c'est facile, c'est qu'il y a un problème. Donc rien n'est jamais facile. Donc travailler, être passionné.
Donc là, dans la bouffe en particulier, la passion pour la bouffe.
Passionné, évidemment, passionné. Être curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut, bien au contraire. Être humble, humble. Parce que l'humilité, c'est tellement important. Il faut être humble dans ce qu'on fait. On peut peut-être avoir un projet qui va révolutionner le monde. On peut en être convaincu, mais il faut pas non plus arriver en se disant que voilà qu'on va casser la baraque.
Et doucement et par étapes.
Voilà. Et il faut être sincère, sincère et loyal. La sincérité, la loyauté, c'est important par rapport aux gens qui vont nous accompagner, par rapport aux gens qui vont nous faire confiance. Être sincère et loyal, c'est très important. Et pour terminer, je pense que c'est important, comme disait le fooding, d'avoir le goût de l'époque. Parce que moi, je vois certains projets à qui j'explique qu'on va pas travailler avec eux, qui ont un super projet qui aurait cartonné il y a 5 ans. Ou qui peut-être feront un tabac dans 5 ans, mais là, à l'instant T, ça marche pas. Voilà, et ce goût de l'époque, il est très important.
Et surtout que ce goût de l'époque, il n'arrête pas d'évoluer. Donc, il faut se challenger constamment pour être toujours certain d'avoir les goûts de l'époque. Quoi.
Absolument.
Dernière question, mais là, je vais te mettre dans une situation assez compliquée parce que les bons plans bouffe à partager. J'ai une challenge. Alors, un bon plan bouffe à partager qui soit pas un de tes clients.
Qui soit pas un restaurant, alors.
Si c'est possible, mais si tu veux parler de tes clients avec plaisir.
Oui, non, de toute façon.
Sinon, juste pardon, avant que je t'ai donné la parole. On veut vraiment élargir ça, peut-être des livres, des podcasts, une série, un film autour de cet univers-là qui t'ont marqué. Ce serait intéressant aussi.
Non, déjà, je vais pas parler de mes clients parce que c'est trop délicat pour moi et puis, de toute façon, je saurais pas lequel choisir. Alors déjà, je vais vous donner 2 restaurants que j'aime beaucoup. Ultraviolet à Shanghai de Paul Perret.
OK. Il s'installe en France, Paul Perret, non?
Il y a des bruits, mais je sais pas si c'est vrai, pas vrai. Voilà.
D'accord.
En tout cas, je sais qu'il est à Ultraviolet. Bon, c'est pas le moment d'aller à Shanghai, mais.
Tu l'as fait, ces restos-là?
C'était mon cadeau pour mes 30 ans, c'est ce que j'ai demandé. J'ai fait un aller-retour à Shanghai pour aller manger à Ultraviolet.
Sympa.
Classe. Moi, j'ai fait très joli vidéos, cadeau. C'est un show.
Ça a l'air complètement fou.
Honnêtement, c'est le meilleur dîner de ma vie. C'est le plus grand dîner de ma vie. Ouais. C'était une émotion inouï, et quand on est passionné de bouffe, il faut faire Ultraviolet une fois dans sa vie.
Je vais demander à ma chérie.
Voilà. Voilà. Et ensuite, un petit bistrot que j'aime beaucoup qui s'appelle Au Petit Tonneau, qui est rue Surcouf dans le 7e.
D'accord.
Qui est notre bistrot de famille.
Plus accessible.
Ouais, c'est un super bistrot. Et en fait, quand on a envie d'être heureux, d'être cocoon, et quand on a quelque chose à fêter, on va toujours là-bas.
C'est quoi ton plat prédilé?
La blanquette de veau.
J'adore.
Ouais.
Ouais, c'est bien. Ouais.
Et voilà, enfin, c'est notre bistrot de famille, quoi. On y a fêté notre mariage, on y a fêté le baptême de Franklin, et c'est le lieu où on est bien et on est heureux là-bas.
Super. Voilà. Et juste, vu que tu écoutes beaucoup de podcasts, pour aider aussi nos camarades podcasteurs, est-ce que tu as des podcasts à recommander au-delà des Business of Bouffe, bien sûr, mais...
Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est pas dans la bouffe, forcément, mais qui est Vlan.
Vlan, je connais pas ça.
Vlan,
je connais pas non plus.
C'est plutôt sur des problématiques sociétales.
D'accord.
Et c'est un super podcast, je trouve très très pertinent. Notamment, j'ai écouté 3 derniers podcasts de lui justement sur l'éducation, sur les enfants. La problématique justement sur comment éduquer ses enfants dans ce contexte de temps court, de sursollicitation, et c'est mon frère qui m'avait donné ce tuyau Vlan, et je le trouve remarquable.
Super, bon, on va l'écouter.
Voilà. Et peut-être un livre pour terminer.
Ah bah vas-y, plaisir.
Que je suis en train de lire.
On a encore une heure si tu veux.
Le temps long.
Et un livre que je trouve remarquable, que je termine. Pourquoi les agriculteurs vont sauver le monde.
J'en ai entendu parler.
Voilà.
Ouais,
ça, super. Extraordinaire.
Et comment
l'auteur, c'est Sylvie?
C'est une femme, je vais vous dire comment elle s'appelle.
Non, mais on va le retrouver.
Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup là dans nos podcasts.
Ouais.
L'importance de l'agriculteur.
Donner une place centrale dans notre société, bien sûr.
Mais c'est fondamental.
On s'est déconnecté du monde rural.
Complètement.
C'est un vrai problème.
Quand tu parlais des valorisations des métiers, je pense que là, peut-être dans 20 ans, tu vas commencer à accompagner des agriculteurs, en fait. Parce que ça, c'est des métiers qu'il fallait vraiment valoriser, en fait.
Mais je rêve de le faire. Oui. Je rêve de le faire. Et je le ferai.
C'est vrai que c'est une évolution naturelle. Ouais.
Complètement.
Parce qu'il y a un savoir-faire.
À titre perso, moi, ça, depuis toujours, enfin, je veux dire, je mange français, je valorise les circuits courts, je suis très sensible aux problématiques des agriculteurs. Il y a des choses qui me bouleversent. Enfin, ce livre me bouleverse. J'ai vu le film Au nom de la terre,
bien sûr, ouais.
qui m'a bouleversée. Et voilà, en tout cas, si dans le futur, si je peux aider ces gens-là et si je peux aider à revaloriser cet univers, je pense que ça sera l'une de mes plus grandes fiertés.
C'est super. Nous, on a fait un épisode, on a fait un spécial salon de l'agriculture et on a fait un épisode autour des lagris positives, qui est un peu la réponse à l'agribashing.
Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que tes compétences seraient très utiles hyper dans utile. Ce secteur-là.
Mais moi, j'espère que ça sera les métiers de demain, ça sera l'agriculture et que mes enfants, ils rêvent d'être agriculteurs. Ça sera vraiment.
Ouais, vraiment.
Qu'on a réussi, quoi.
Vraiment. C'est très noble. C'est l'un des métiers les plus nobles qui existent.
Il faut faire avec les agriculteurs ce qu'on a fait avec les chefs il y a quelques années, en effet.
Absolument. Ouais. Je suis certaine qu'on y arrivera.
Ouais.
Je suis certaine. C'est parce qu'on voit vraiment qu'il y a qu'on revient à des vraies valeurs. Enfin, moi, je me dis que oui, arrêter le plastique, repartir sur des consignes en verre. Il y a plein de choses sur lesquelles on dit, ah, mais on fait marche arrière. Mais justement, non, ouais. C'est de la marche arrière.
C'est
du bon sens. C'est du bon sens. Voilà. Et revenons à du bon sens.
On est d'accord. Bon, on arrête avec ces mots-là ?
Très, très bien.
Ah, super. Merci beaucoup, Clarisse.
Merci à tous les deux. C'était génial. Merci
super.
Beaucoup.
Merci. Ciao.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.